De CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre balade scientifique hebdomadaire avec Futur Simple. Et aujourd'hui, votre balade scientifique va nous emmener en République démocratique du Congo avec Arsène Mutasige, un jeune chercheur en agronomie qui nous parlera non pas d'agronomie, mais de la nécessité de vulgariser la science et de diffuser une culture scientifique. Et parlant de vulgarisation, de vulgariser la science, ou plus généralement de communiquer la science, eh bien on sait qu'une image vaut mille mots et que l'illustration facilite la compréhension de la science. L'illustration scientifique est d'ailleurs une spécialité et la faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design de l'Université de Laval vient justement de créer un diplôme d'études supérieures spécialisé en illustration scientifique. Et pour nous présenter ce diplôme, je reçois Alain Rochon. Il est vice-doyen aux études à la Faculté d'aménagement d'architecture, d'art et de design. Bonjour, Monsieur Rochon.
Bonjour, Valérie.
Alors, j'ai nommé donc ce diplôme d'études supérieures spécialisé en illustration scientifique. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir une telle spécialisation. Donc, on comprend que c'est une spécialisation, finalement, l'illustration scientifique. Mais, en fait, ça ressemble à quoi, l'illustration scientifique? On parle de quoi?
Premièrement, c'est un peu ironique de venir traiter à la radio d'un sujet qui parle d'image. Je vais essayer d'être le plus imagé possible dans mes propos. On pourrait faire un parallèle avec le journalisme scientifique où les journalistes scientifiques qui très souvent vont suivre une formation en journalisme et s'ils sont intéressés par la science vont se perfectionner dans ce domaine-là et devenir spécialiste en journalisme scientifique, mais ils utilisent les mots pour communiquer la science auprès du public. L'illustrateur scientifique fait la même démarche, mais il utilise l'image. Mm-hmm. Et très souvent, l'image ou l'illustration scientifique est complémentaire aux mots. On le voit souvent d'ailleurs dans les articles scientifiques grand public. On le voit aussi dans les émissions de télé. Si on regarde l'émission de découverte, par exemple, mm-hmm. on a toujours l'image qui est jointe au texte qui est lu.
Est-ce qu'on le voit, est-ce que c'est juste dans le domaine scientifique ou est-ce qu'on le voit, je veux dire, dans le domaine scientifique, dans le domaine universitaire ou est-ce qu'on le voit aussi, par exemple, dans le domaine industriel qui vont utiliser des équipements, qui vont utiliser de la science finalement, de la recherche appliquée, qui vont mettre en application de la science, qui vont peut-être avoir, je ne sais pas, des brochures explicatives mm-hmm. ou qui vont avoir sur leur site web des explications aussi. Donc, est-ce que là encore, on retrouve ces besoins d'illustration scientifique?
Partant du concept que la science fait partie du quotidien de tout le monde, mm-hmm. On est entouré de science sans qu'on s'en rende toujours compte. Forcément, dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie des meubles, peu importe, on voit un besoin d'illustrer par l'image. Soit des mécanismes, des objets d'abord. L'illustration scientifique sert à différents... Je vais faire une parenthèse. Disons que c'est d'ailleurs la façon dont le programme est axé, c'est-à-dire qu'on s'intéresse autant aux micros, c'est-à-dire les micro-organismes. On parle de l'atome, mm-hmm. on va parler des virus qui sont grosso modo 100 fois plus petits qu'une bactérie, des bactéries, tout ça. Bon. Et ça grossit, et on va jusque dans l'espace. Mm-hmm. Donc, le macro. Et à partir de là, l'illustration sert à soit illustrer un objet, donc on peut penser au virus de la COVID, par exemple, qu'on a tous vu, hein, une fois que la pandémie a été déclenchée et tout le monde se demandait ce que c'était que cette histoire qui causait tant de dommages, on a cru besoin de mettre un visage à ce petit organisme qui est tant aimé. Ça peut aussi servir à illustrer des mécanismes. Si on veut, par exemple, montrer comment se forment les ouragans dans l'Atlantique, mm-hmm. On va utiliser une série d'images ou une combinaison d'images qui vont illustrer la façon dont les ouragans se forment, donc montrer la convection de l'air avec le taux d'humidité qui augmente, la température de l'eau, et etc., etc. Donc, et là, on fait appel à d'autres connaissances, à savoir ce qu'on appelle le design d'information. C'est-à-dire que le programme qu'on met sur pied va... Il y a trois axes, si vous me permettez. J'en parle tout de suite là-dedans. Mm. Il y a trois axes. Il y a le dessin, évidemment, comme tel. l'illustration. Donc, il faut être bon en dessin et on va s'améliorer grâce au programme. Il y a un professeur qui s'occupe, qui est en charge de ça. Il y a aussi la visualisation d'informations. Donc, comment, à partir de données complexes, comme des statistiques, par exemple, mettre ça en image pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Et il y a aussi tout l'aspect scientifique. Donc, il y aura aussi un axe scientifique pour que les étudiants apprennent à lire, à s'enquérir auprès d'un sujet scientifique, trouver les articles, les lire, les comprendre, les résumer. Comment aussi transiger avec les scientifiques pour faire des illustrations.
Donc ça veut dire que les gens qui vont pouvoir s'inscrire à ce programme-là, ils peuvent venir ou bien déjà du domaine scientifique et, bon, ils vont avoir une avance peut-être sur d'autres pour ce qui est de leurs connaissances scientifiques, mais ils vont acquérir des nouvelles connaissances en dessin, en design. Ou alors, ils peuvent être des gens qui étaient préalablement en design ou en tout cas en d'autres disciplines et ils vont dans ce programme-là approfondir leurs connaissances, leur aptitude de design et apprendre les connaissances scientifiques qu'ils n'avaient pas forcément dans leur parcours précédent.
Exactement, vous misez juste, à savoir que les personnes qu'on admet au programme, il faut d'abord détenir un baccalauréat, peu importe la discipline. S'intéresser à la science. Donc, ceux qui sont déjà en science, forcément, s'intéressent à la science, mais les autres, pas forcément. Ils doivent s'intéresser beaucoup à la science. Et être bon en dessin aussi. Donc, déjà avoir de bonnes aptitudes en dessin. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont déjà ces aptitudes-là. C'est pas parce qu'on est en science qu'on n'est pas bon en dessin. Au contraire, il y en a qui ont développé ces aptitudes et qui n'ont pas eu la chance de l'exploiter de façon professionnelle. Ben là, c'est une occasion de le faire.
On n'en a pas forcément eu l'idée.
Oui, aussi, tout à fait. Donc, oui, effectivement, ça peut venir des deux sphères d'activité. Et pour ce qui est des cours de sciences, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr qu'on veut pas faire des... On va toucher les quatre grands domaines, donc l'espace, la Terre, la planète Terre, le vivant, donc en général, donc les plantes, les animaux, et aussi l'humain comme tel, donc le secteur plus médical. Donc on va essayer de toucher ces... Mais on veut pas faire des spécialistes de ces grandes disciplines, on veut simplement leur exposer les différentes avenues possibles et auxquelles ils pourraient être exposés dans leur métier. Et c'est surtout les amener à bien faire de la recherche d'articles scientifiques, de bien les comprendre. C'est sûr que quelqu'un qui est déjà en science va avoir une longueur d'avance sur les autres, mais il y a toujours espace pour s'améliorer de toute façon.
Oui, puis de toute façon, quelqu'un qui vient, mettons, de la science, je sais pas, de la biologie, c'est pas quelqu'un qui a été en géologie, donc il n'a pas de longueur d'avance en géologie sur les autres.
Exactement, tout à fait.
C'est ça, exact. Donc là, on parle d'illustration scientifique, mais je comprends que finalement, ces personnes-là vont utiliser plusieurs médiums. Parce que et je me demande aussi, on a déjà de la photographie, on a déjà beaucoup d'outils avec la photographie pour montrer pour illustrer la science. Mais ça suffit pas. Là, ce que vous proposez, c'est d'aller plus loin que la photo.
La photographie a des limites. Si je peux donner l'exemple de, si vous voulez illustrer ou montrer comment un muscle est constitué, est fait, et comment il s'attache aux os, l'illustration va permettre d'épurer. D'enlever les tissus. Si vous prenez une photo d'abord, il faudrait écorcher quelqu'un. C'est pas un peu difficile d'avoir des volontaires à ce sujet. Et ensuite, si on l'écorche, il faut nettoyer les tissus conjonctifs et les choses qui peuvent empêcher de bien voir l'objet en question. Donc, l'illustration permet ça, permet d'aller dessiner ce qui nous intéresse et de laisser tomber le reste, le superflu, je dirais. Donc, ça permet cette flexibilité-là.
Oui, puis il y a l'illustration de l'objet, mais comme vous le disiez plus tôt, il y a l'illustration des processus, par exemple, ou des mécanismes. Quand on parle, vous parliez de météorologie, donc il y a peut-être l'illustration des mécanismes, mais en météorologie ou autre, qui est trouver la méthode de les représenter qu'une photo ne pourrait pas faire, simplement.
Nous parlions aussi, il y a aussi toute une série de concepts abstraits en science qui ne sont pas visibles quand on pense à la physique. La physique pure, ceux qui jonglent avec le concept des cordes, il y a 27 dimensions. C'est très abstrait, puis il faut essayer d'illustrer ça pour bien faire comprendre. On parlait aussi de physique quantique.
Ouais.
Si on veut montrer comment un ordinateur quantique fonctionne, c'est pas donné.
Ouais, il faut nous l'illustrer, là,
ouais.
Effectivement.
Alors, ça demande beaucoup de connaissances et puis vraiment se plonger dans le monde de ces gens-là qui ont une imagination assez débordante.
Mais c'est là tout le côté créatif qu'on attend justement des designers qui vont pouvoir apporter, voir les choses autrement, apporter de la créativité pour illustrer des phénomènes que peut-être d'autres qu'un scientifique peut-être n'aura peut-être pas l'idée d'illustrer peut-être.
L'illustrateur scientifique, tout comme le journaliste scientifique, ce sont des intermédiaires ou des médiateurs entre la science et le public à qui ils s'adressent. Mais ces gens-là sont surtout issus du public, ils ne sont pas des spécialistes en science ou dans cette science-là qu'ils doivent illustrer. Donc, ils apportent le regard justement du public, qui est un regard peut-être un peu plus naïf et qui peut parfois aider davantage à produire quelque chose qui va être plus compréhensible par les gens.
Puis trouver le moyen de illustrer des idées, je sais pas, de mettre en scène, en dessin, en scène sur papier ou sur un autre média, des idées pour faire ressortir un concept des fois qui peut être abstrait, c'est pas forcément évident.
C'est pas évident, non.
C'est ça.
Donc,
comme on s'en disait un petit peu hors onde, c'est pas forcément le scientifique qui va dire à l'illustrateur, je veux que tu m'illustres ça, comme ci, mais on doit laisser la place au designer de mettre en marche ce neurone pour trouver une façon de faire.
Tout à fait. Et puis, comme on en parlait justement avant l'émission, l'illustrateur scientifique ne devrait pas être considéré comme un exécutant, à savoir le scientifique peut donner un ordre à l'illustrateur, lui dire « tu vas faire le dessin de cette façon ». L'illustrateur scientifique doit aussi faire comprendre aux scientifiques qu'il est un consultant en communication et que la stratégie de communication est importante, dépendamment du public à qui on s'adresse et des différentes stratégies de dessin qui peuvent être utilisées dans ce contexte. Donc, il y a une espèce de jeu de communication qui doit s'établir entre les deux.
Maintenant aussi, j'ai parlé un petit peu du médium. Donc, j'imagine que ces illustrateurs scientifiques ne vont pas juste créer sur papier. On a de l'électronique maintenant. Donc, est-ce que dans la formation, il est aussi inclus d'utiliser des outils de design informatique ou...
Tout à fait. Dans les cours de dessin, il va y avoir à peu près tous les médias. Les médiums vont être vus et explorés. Maintenant, très souvent, les illustrateurs ont leur médium chouchou avec lequel ils sont très à l'aise. Donc, on veut pas les forcer non plus à utiliser tous les médiums. Ce sera à eux de déterminer lequel est le plus approprié. Mais bien, c'est sûr que il n'y a pas seulement des illustrations fixes, hein, les illustrations animées.
Ouais, c'était ma question aussi.
Pour la télévision, par exemple, si on écoute l'émission de découverte, on en voit beaucoup. Ça, c'est un autre champ d'expertise, de technologie. Mais la personne qui est déjà forte dans la maîtrise de ces logiciels-là peut très, très, très bien réussir des choses assez formidables. Donc, ça dépend toujours de l'usage qui est nécessaire pour l'illustration, à qui on s'adresse, quel média de diffusion va diffuser aussi. Et c'est là où la stratégie de technologique ou de choix de médias ou de médiums va être nécessaire à mettre en œuvre.
Donc c'est cet apprentissage-là aussi, là, quand on parle d'illustration, là, c'est pas seulement crayon sur papier, là, c'est bien plus large que ça. Exactement.
Tout à fait. Ou ça peut être une combinaison aussi de plusieurs médias. On parlait de la photo tout à l'heure. La photo peut très bien servir d'outil de documentation pour ensuite, avec une combinaison de photos, faire des choix, puis soit dessiner ou faire un montage dans des logiciels d'édition d'images.
Donc, comme je le disais, c'est quand même une activité, un métier assez spécialisé. Qu'est-ce qui vous a incité à créer ce programme?
Ben, on avait déjà des forces vives à l'école, à savoir le dessin. On a un professeur que je m'amuse à appeler une ceinture noire en dessin. Il est excellent pédagogue aussi. Et on a aussi un autre professeur qui est spécialisé en visualisation de l'information, dont je parlais tout à l'heure. et aussi une autre personne qui s'est greffée à nous, qui lui a fait un parcours en sciences, un doctorat en microbiologie, si je ne me trompe pas, et s'intéressait, il faisait de la photographie depuis très longtemps, il s'intéressait à cet aspect de communiquer par l'image. Donc, il a pris quelques cours à la carte chez nous. Un de mes collègues, qui est le doyen de la faculté maintenant, a eu cette idée conjointement avec ces gens-là, en brassant des idées, de créer ce programme ou créer quelque chose, une entité qui pourrait mm-hmm. enseigner l'illustration scientifique. Finalement, on aboutit avec la formule du DESS, qui est un programme de deuxième cycle, mm-hmm. qui n'est pas un programme de maîtrise à proprement parler. C'est un programme de 30 crédits sur un an, qui se donne sur un an, donc qui commence en septembre et qui se termine à la fin juin, trois sessions consécutives. Puis je peux parler peut-être un petit peu de la structure du programme.
Oui,
donc,
oui.
Je parlais tantôt des quatre thèmes, donc l'espace, la terre, le vivant et l'humain. Donc, c'est vu à travers les deux sessions à l'automne et à l'hiver. Et il y aura toujours un cours de sciences conjointement avec un cours de dessin et un cours de visualisation d'information. Et au bout de ça, il y a toujours un atelier ou une forme de laboratoire où les étudiants seront amenés à faire des projets mm-hmm. qui cristallisent ou enfin qui mettent à contribution les connaissances qu'ils vont apprendre au fur et à mesure, dans les connaissances et savoir-faire qu'ils vont apprendre au fur et à mesure que le programme va avancer. Et le tout va culminer à l'été par un projet intégrateur où l'étudiant devra trouver un ou une scientifique pour qui il fera un vrai projet.
C'est vraiment intéressant.
Ouais. Et c'est là que rentre en jeu pas juste les connaissances et le savoir-faire, mais le savoir-être. Quand je disais tout à l'heure qu'il doit agir comme consultant, il y a des scientifiques qui ne sont pas toujours drôles. Il y en a qui ont des égos assez démesurés. Donc, il faut y aller avec délicatesse et doigté. Donc, le savoir-être va être extrêmement important à acquérir aussi.
Ah oui, puis ce n'est pas évident parce que là, il faut comprendre la demande du scientifique. Qu'est-ce qu'il a besoin d'illustrer? Il faut l'intégrer dans son propre vocabulaire soi.
Mais il faut bien comprendre à qui ça s'adresse.
À qui ça s'adresse,
puis bien faire comprendre ça aux scientifiques aussi. C'est pas... Mais l'illustration scientifique peut très bien servir aussi à un scientifique pour communiquer avec ses collègues, dans le cas d'un colloque. Donc,
c'est
entre experts. Mm. Mais ça peut aussi s'adresser à des enfants. Mm. Donc, les publics sont très, très, très larges. Puis ça, c'est important que l'illustrateur scientifique soit bien au fait de ces
Donc, il y a des éléments de communication finalité. À travers ce programme-là
Absolument.
Pour savoir qui est, mm-hmm. à qui s'adresse ce qu'on va produire.
C'est essentiel. Ouais.
Donc là, vous me dites que vous avez créé ce programme-là parce qu'il y avait des forces vives à la faculté, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une demande. Ça ne sert à rien de former des illustrateurs scientifiques si on n'en a pas besoin. Donc, est-ce que vous sentiez qu'il y avait un besoin?
Les besoins sont là, sont criants. Ça s'est manifesté très souvent à chaque fois que je parlais à des gens de la communauté scientifique de l'existence ou quand on est en train d'élaborer le programme. Je voyais les grands yeux qui s'écarquillaient et un sourire qui s'affichait sur les visages. Les besoins sont là. Les applications sont multiples dans toutes sortes de domaines. On peut penser aux éditions, maisons d'édition spécialisées en livres scientifiques pour différents publics, pour l'éducation, pour le grand public en général, pour les enfants ou les jeunes. On peut penser aussi à l'industrie pharmaceutique qui est très florissante et qui a beaucoup besoin d'illustrations mm-hmm. pour illustrer comment un médicament peut agir sur le corps et comment ça agit sur les cellules et ainsi de suite. L'industrie des brevets. Les illustrations sont essentielles pour les brevets, pour illustrer la chose à breveter, évidemment, ou la façon dont le truc fonctionne, c'est essentiel. Et tout le domaine de la recherche, donc les groupes de recherche, les chercheurs ou les chercheuses qui ont constamment besoin d'illustrations, et souvent ils s'arrangent un petit peu comme ils peuvent, et souvent c'est un peu brinque-ballant leur truc, mais ils souhaiteraient avoir des gens spécialisés qui puissent les aider à faire ça.
Effectivement, donc parce qu'on n'en voit pas, on a l'impression que c'est comme un travail caché, parce que manifestement ils existent, ces illustrateurs. Parce
on en voit partout.
Effectivement.
Il suffit de porter attention.
Ah oui, ça va, c'est pas marqué sur le front, je suis illustrateur scientifique. Parce que, donc effectivement, quand on prend un livre de science, il va y avoir des illustrations dedans, donc il y a quelqu'un qui a fait ces illustrations. Mais on connaît pas forcément leur nom, donc peut-être qu'ils sont un petit peu cachés, ceux qui travaillent aussi, qui font des illustrations pour les chercheurs eux-mêmes, ou quand on a l'impression qu'ils sont
Il y a un cas de figure assez important que je peux nommer, c'est la fameuse encyclopédie de l'anatomie d'un dénommé Frank Netter. Et l'histoire de ce type est assez intéressante. C'est que lui, c'est un type qui est, c'est un Américain qui reste à New York. Très jeune, il s'intéressait beaucoup au dessin. Puis après, il a dessiné très jeune et il a voulu faire carrière en art. Donc, il s'est inscrit à l'école d'art à New York et s'est intéressé plus particulièrement à l'illustration parce qu'en art, évidemment, c'est un domaine qui est très vaste. On peut faire toutes sortes de choses, mais lui, c'est l'illustration qui l'intéressait. Il a travaillé pour différents magazines, mais il était constamment harcelé par son père qui insistait pour qu'il fasse un métier plus noble, je dirais.
Ah oui?
Donc, il a finalement cédé, puis il a finalement décidé de s'inscrire à l'école de médecine. Et il est devenu chirurgien. Et dans ses études, il s'est rendu compte que les dessins, les planches anatomiques pour apprendre l'anatomie du corps n'étaient vraiment pas à la hauteur de ses attentes. Donc, il a décidé un jour de lui-même créer ses propres dessins. Et il a eu tellement de succès qu'il a décidé de faire le corps au complet, finalement. Et c'est devenu l'anatomie. Et ce livre-là est répandu à travers le monde. Il n'y a pas un étudiant qui étudie en médecine ou dans le domaine de la santé ou qui ont besoin d'apprendre sur l'anatomie, qui n'ont pas cette encyclopédie entre les mains.
Et jusqu'à présent, donc, les illustrateurs scientifiques, comme ça, ils se formaient sur le tas ou ils avaient une formation, il y avait déjà des programmes spécialisés qui existaient?
Il y a déjà des programmes spécialisés de niveau universitaire à travers le monde. Ils sont majoritairement en anglais. Selon nos recherches, on n'en a trouvé qu'un seul en français. Il est à Paris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais il n'était pas sous notre radar. Donc, en principe, on serait le seul en Amérique du Nord à offrir un programme en français en illustration scientifique. Et la plupart aussi sont des programmes qui sont axés principalement sur la médecine, donc l'illustration médicale.
Ah oui, alors il y a peut-être d'autres choses aussi à illustrer.
Nous, on essaie d'ouvrir un petit peu plus large. C'est une caractéristique de notre programme.
Est-ce que vous sentez que de la part des étudiants, vous avez sondé dans le milieu estudiantin s'il y a des personnes intéressées?
Oui. On a sondé tant chez les étudiants en design chez nous à l'école, à l'école de design, et des étudiants en sciences à la faculté de médecine notamment. Et on a fait une série de sondages et à partir de ces données-là, on a créé trois personas qui est un personnage que l'on crée à partir de données qu'on a recueillies. Et on aboutit avec deux personnes, justement, selon la masse d'informations qu'on avait recueillies, deux personnes qui étaient issues des sciences, en microbiologie notamment. Et c'est intéressant parce qu'il y en avait un de ces personnes-là qui voulait partir de la science, apprendre, il connaissait déjà le dessin, tout ça, faire le cours pour devenir une illustratrice scientifique. Mais l'autre personne, elle voulait continuer sa recherche et utiliser ses connaissances en illustration scientifique pour faire ses propres illustrations pour ses propres recherches. C'est intéressant comme cheminement.
Est-ce qu'en même temps, parce que ces gens-là sont quand même un petit peu cachés, j'imagine que les entreprises n'ont pas forcément, ou les chercheurs ne vont pas avoir un illustrateur scientifique dans leur équipe, donc ça va être du travail un peu à la pige probablement.
Oui.
Est-ce que vient en même temps quelques formations sur ce que c'est que le travail à la pige et comment on travaille, comment on interagit avec le client et comment on cherche du travail ou...
ça va faire partie, il n'y a pas de cours à proprement parler, mais ça va faire partie des informations que l'on devra fournir aux étudiants d'une façon, sous une forme ou sous une autre, mais bien sûr.
Pour que quand ils sortent de ce programme-là, donc à l'été suivante, ils puissent voler un petit peu de leurs propres ailes.
Tout à fait, oui.
Donc là, les inscriptions, est-ce qu'il y a des dates d'inscription? Vous dites que ça commence
à l'automne, en septembre.
Okay.
La date officielle est passée, c'est le 1er mars, mais on accueille les candidatures jusqu'à ce que la capacité d'accueil soit limitée, soit atteinte, mais c'est pas le cas actuellement, donc il y a encore de la place.
On trouve toute l'information sur le site.
Vous avez juste à aller sur le site de l'Université Laval, futurs étudiants, vous cliquez, vous tapez illustration scientifique, vous allez tomber sur le programme, toute l'information est là.
Donc, on rappelle le titre de ce programme?
Alors, c'est un DESS en illustration scientifique.
Voilà, DESS en illustration scientifique, et ça se passe à la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design de l'Université Laval. Merci beaucoup, M. Rochon, de nous l'avoir présenté, ce programme.
Ça me fait plaisir.